Bonjour chers cliniciennes et cliniciens, merci d'avoir cliqué sur le podcast Clic Physio. Cette série de 10 balado-diffusions vous permettra de vous plonger tête première dans l'univers de la téléréadaptation avec divers acteurs influents du milieu. Laissez-vous charmer par cette modalité d'intervention novatrice qui nous permet de tisser un service sécuritaire, inclusif et de qualité par l'entremise de la toile du web. À un clic de nos patients, vous découvrirez l'importance de ce juste compromis qu'offre la téléréadaptation. Bienvenue sur le podcast Clic Physio, une initiative étudiante dans le cadre d'un projet de maîtrise en physiothérapie. Aujourd'hui, on va à la rencontre de nul autre que Blaise Dubois. Gradué en physiothérapie de l'Université Laval, diplômé en physiothérapie du sport, Blaise a fondé l'entreprise Affranchi la clinique du coureur en 2008, leader d'idées novatrices en médecine du sport, auteur, conférencier, copropriétaire et co-gestionnaire des cliniques de physiothérapie et de médecine du sport, PCN, organisateur d'événements sportifs. Cet homme, animé par la science, nous donne un aperçu de son utilisation de la téléréadaptation au sein de sa pratique actuelle. Bon épisode à tous. Donc, bonsoir.
Salut Julien.
Un gros merci d'être là puis de prendre de ton temps pour venir discuter avec nous sur le podcast aujourd'hui.
C'est cool. Content d'être là.
Ben, un gros merci. Blaise, pour les gens qui n'ont pas eu la chance de te croiser, que ce soit en tant que client ou par rapport aux ouvrages que tu as participé, est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter, s'il te plaît?
Alors, je suis physiothérapeute de profession, copropriétaire des cliniques de physiothérapie et de médecine du sport PCN, fondateur de la clinique du coureur, auteur du livre La santé par la course à pied, et j'enseigne un peu partout dans le monde les meilleures pratiques sur la prévention et le traitement des blessures chez le coureur. Et avec toute mon équipe, on a mis en place l'entreprise Affranchi, qui est une gouvernance particulière, horizontale des entreprises. Donc, voilà.
Excellent. Blaise? La téléréadaptation, télésuivi en physiothérapie, c'est quand ça remonte les premiers contacts de ton utilisation avec cette modalité-là?
Ben en fait, probablement que j'en ai déjà fait un petit peu avant dans des contacts parce que j'ai des clients qui viennent de loin puis que finalement, que ce soit au téléphone, que ce soit dans un Zoom quelque part, j'orientais quelques patients, mais la vraie téléconsultation et le vrai saut s'est fait dans la crise du COVID où là, on n'avait plus trop le choix de faire un suivi avec nos patients autrement qu'en présentiel. Ben là, on a vraiment fait, j'en ai fait passablement et depuis la COVID, depuis 2020 finalement, depuis maintenant plus d'un an, je continue de faire de la téléconsultation parce que ben, ça m'arrange. Ça m'arrange parce qu'il y en a qui viennent de loin, il y en a qui viennent du lac Saint-Jean, il y en a qui viennent d'ailleurs que Québec. Donc, ça facilite un petit peu, ça réduit le transport de mes patients. Et j'en ai aussi qui me demandent de l'expertise via de l'Europe ou via d'autres pays. Donc, voilà, je continue d'en faire quand même une fois par semaine. Là, j'ai quelques cas que je suis en téléconsultation.
Par rapport à ces cas-là, est-ce que c'est davantage axé sur justement la course à pied, voire des suivis, ou si l'utilisation peut être sur d'autres pathologies que tu rencontres en clinique normale?
Moi, ma spécialité, c'est le musculo-squelettique membre inférieur, surtout non traumatique, mais aussi un peu traumatique. Mais je vais t'avouer que je fais de tout en téléconsultation, c'est-à-dire que j'ai des gens qui ont besoin de conseils et qui veulent être orientés sur n'importe quelle pathologie musculo-squelettique.
Puis quand on parle de membres inférieurs, parfois l'utilisation des technologies, que ce soit cellulaire, ordinateur, c'est pas toujours évident d'obtenir l'angle optimal ou de réussir à faire les tests. Comment tu as réussi un peu à former peut-être ton expertise, ton approche pour pouvoir utiliser ta vision, ta communication, ton écoute pour réussir à faire un suivi avec tes patients?
Je te dirais qu'on s'organise comme on peut, mais vois-tu, j'en ai fait quand même beaucoup des téléconsultations, puis les gens ont leur portable, les gens ont leur cellulaire, puis des fois, c'est pas possible parce qu'ils sont sur leur ordinateur à la maison, puis ça se bouge moins bien. Mais sinon, on arrive toujours à trouver une manière, en fin de compte, de mettre le iPad, le cellulaire ou le portable par terre pour pouvoir faire un étirement quelconque, évaluer quelque chose, montrer un exercice. En fait, on arrive quand même assez bien à se débrouiller. Tu sais, je dirais que l'autre chose aussi, c'est qu'on a une grande crainte comme physiothérapeute quand on fait de la téléconsultation, qu'on ne soit pas capable de porter un diagnostic parce qu'on ne touche pas à notre patient parce qu'il n'est pas physiquement avec nous. C'est sûr que la téléconsultation au cellulaire, comme beaucoup de médecins ont fait pendant la crise, c'est quand même plus complexe. Hein? Tu ne vois pas que le patient ne va pas, tu ne vois pas la couleur de sa face, tu ne vois pas dans quelle mesure il est souffrant ou pas. Il s'exprime et ça, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais quand tu es capable d'avoir une image, surtout si tu es capable d'avoir une image de l'ensemble du corps et tu es capable de montrer ou de jouer avec des stress tests que le patient va se faire lui-même, ben ça simplifie quand même, c'est quand même relativement facile. Puis tu sais, il y a des études qui montrent qu'un diagnostic, ça se fait pas d'abord et avant tout avec un examen physique, ça se fait d'abord et avant tout avec une histoire et un examen subjectif. Et il y a quelques papiers sur le sujet qui montrent vraiment que jusqu'à à peu près 80% des cas, on arrive à faire un diagnostic relativement précis avec seulement l'histoire et l'examen subjectif. Donc, bien écouter son patient, à prime abord, c'est la première chose qu'il faut faire. Après ça, l'examen physique, habituellement, est un examen, l'examen objectif, un examen complémentaire pour préciser l'aspect diagnostique. Et dans cet examen physique-là, c'est rare que je suis limité en téléconsultation. Ça m'arrive quand même de temps en temps de dire à des patients, écoute, il va falloir que je te voie en présentiel, il faut que je te fasse quelques tests, ou quand ils sont trop loin, de dire, ben là, il faudrait que tu ailles voir un physio, puis mentionne-y de faire tel et tel et tel test pour essayer de préciser un peu plus le diagnostic, et que cette précision de diagnostic doit être faite parce que ça va changer mon approche de traitement. Parce que l'autre chose qui est essentielle à savoir, c'est que si on peut avoir le diagnostic le plus précis, mais on peut se permettre d'être dans un flou diagnostic si le traitement est le même, peu importe le libellé diagnostic différentiel. C'est-à-dire, même si j'ai 3-4 diagnostics à la fin puis je suis pas sûr, si 90% du traitement, c'est la même chose, ben je sais quoi faire de toute façon.
Est-ce que tu trouves que le fait d'être en utilisation d'une technologie comme les caméras et tout, ça nous permet d'avoir toute notre attention sur la personne, vu qu'on sait que nos mains, on ne peut pas les utiliser, puis de pouvoir utiliser peut-être davantage notre écoute, notre esprit, peut-être plus critique dans le dialogue pour être un peu plus dans l'instant, peut-être présent, même si on est à distance?
J'oserais pas aller là, parce que je pense quand même que le fait d'avoir une présence physique bonifie mon alliance thérapeutique avec le patient. Tu sais, il y a des études qui ont montré qu'en téléconsultation ou même au téléphone, tu arrives à avoir une alliance thérapeutique qui pouvait être forte là, si tu arrives à créer cette connexion avec le patient. Mais c'est sûr que si tu le vois, c'est mieux. C'est sûr que si tu le vois et que tu peux lui toucher, c'est encore mieux. Le fait d'être en connexion directe, puis je te dirais qu'au début, c'était un petit peu plus complexe. Puis avec le temps, on s'habitue vite, hein, parce que maintenant, à peu près la majorité de mes réunions, maintenant, c'est en Zoom. Et de faire une téléconsultation en Zoom, c'est plus tant un problème. Et là, moi, je soulève une autre problématique, en fin de compte, c'est que pendant le temps de COVID, les personnes, bien évidemment, ont leur masque en clinique. Donc, tu vois pas le sourire de la personne, tu vois juste ses yeux. Et parfois même, la connexion avec le patient sans pouvoir y voir le plein visage est différente de quand je le vois en téléconsultation. Parce qu'en téléconsultation, j'y vois la face, j'y vois son sourire, j'y vois ses grimaces, je vois qu'il y a mal quand il fait un mouvement XY, ce qui n'est pas toujours super évident quand on est en présentiel avec un masque. Mais c'est sûr que le mieux de tout, c'est quand on va pouvoir enlever nos masques et puis qu'on va pouvoir voir la face du patient entièrement. Voilà.
Définitivement, je suis du même avis. C'est sûr qu'il est certain que l'expression du visage nous apporte beaucoup par rapport à l'évolution de la douleur, puis voir un peu si la personne, son expression par rapport à son histoire, à quel point est-ce qu'elle est tenace ou du moins elle fait du sens avec ce qu'elle démontre physiquement. Puis, tantôt on parlait d'être outre-mer, les télésuivis permettent d'avoir, en guillemets, aucune limite tant aussi longtemps qu'on a une connexion Internet pour aller faire un suivi avec peut-être des athlètes ou des collègues qui sont à distance. Le fait de pouvoir avoir un pied d'assise peut-être dans le milieu dans lequel ils baignent ou où est-ce qu'ils sont présentement avec les technologies qu'ils ont, que ce soit par exemple dans des compétitions, dans différents centres sportifs. Qu'est-ce que tu trouves que l'apport des télésuivis de cette optique-là permet de peut-être bonifier ou faciliter la récurrence ou l'accessibilité à un service en physiothérapie?
C'est sûr que d'avoir accès à des experts dans des domaines particuliers, puis tu sais, ce que je fais avec l'Europe, c'est pas de la vraie téléconsultation, c'est souvent de l'expertise avec des professionnels de la santé. C'est très parallèle à la téléconsultation. Après ça, il y a tout un aspect légal autour de ça sur lequel il faut être prudent. Donner une expertise directement en visuel avec quelqu'un qui vient de loin et qui n'a pas accès à cette expertise-là dans son milieu et qui a la possibilité de faire une téléconsultation ou une consultation tout court par Zoom, ben c'est sûr que c'est un réel intérêt. Et ça veut dire, c'est la même chose pour moi, là. C'est-à-dire que si moi, le spécialiste XY sur telle pathologie est à telle place, plutôt que de prendre un avion, plutôt que de me déplacer en voiture plusieurs heures, j'ai cette possibilité-là de connecter avec pour savoir quoi faire avec ma problématique, ben, c'est intéressant.
Définitivement. Puis quand on parle après ça de gestion de son horaire, gestion des patients dans sa journée, le fait d'avoir cette option-là comme modalité de traitement ou du moins de suivi avec les patients, qu'est-ce que tu trouves que ça t'apporte en tant que clinicien de pouvoir peut-être jouer sur ces deux fronts-là lorsqu'on fait des suivis?
Moi, je t'avoue que je me cédule une demi-journée de téléconsultation et je ne mets que des téléconsultations. Fait que moi, le jeudi matin, c'est des téléconsultations et en fait, je peux les faire directement de la maison. Donc, c'est sûr que j'ai pas de déplacement pour aller au travail. Je fais mes téléconsultations, je prends le temps de bien les faire. Je me fais un petit setup tout simple pour pouvoir les accueillir en téléconsultation. Ça, c'est le jeudi matin. Et le lundi, je fais du présentiel à la clinique directement. Et il m'arrive dans ma journée de présentiel d'avoir quelqu'un, par exemple, qui dit, ben écoute, moi, je peux pas venir parce que là, on a une tempête, ben en mettant la téléconsultation. J'ai un empêchement 2 jours avant, écoute, je pourrais pas venir. Bon, t'es-tu disponible quand même? On peut faire une téléconsultation. Et dans mon horaire en présentiel, il m'arrive d'avoir tout d'un coup un petit trou où finalement, c'est une téléconsultation. Donc, mon autre patient s'en va, puis plutôt que d'aller chercher le suivant, ben je fais une téléconsultation live de mon bureau directement. Mais c'est sûr que de les condenser dans la même demi-journée, ça me permet de le faire directement de la maison et de rester à la maison.
Puis après ça, quand on parle de conciliation, famille, loisirs et autres en tant que clinicien, je crois que peut-être cet aspect-là de balance, d'équilibre dans une vie peut peut-être être facilité par l'utilisation d'une telle approche.
Oui, certainement. Puis tu sais, moi, je vois beaucoup d'avantages à la téléconsultation. Il a fallu, par contre, qu'on soit teinté par le COVID, sinon ça n'aurait jamais été un réflexe, bien évidemment. Et moi, ce que je constate actuellement, par contre, c'est que dans la clinique, à PCM, on est plus d'une centaine de physiothérapeutes. Très peu de personnes, je suis un des seuls finalement, qui continue de faire de la téléconsultation. Donc, au moment où on s'est permis de reprendre nos habitudes de présentiel, c'est tellement ancré dans les physiothérapeutes que finalement, les physios délaissent très vite la téléconsultation. Donc, moi, je pense que c'est davantage la nouvelle génération de physios qui vont prendre l'habitude de faire de la téléconsultation ou qui vont avoir une approche différente, parce que je pense entre autres à Jean-François Esculier, qui est dans l'Ouest canadien. Et Jean-François, lui, il fait principalement de la téléconsultation, parce qu'il n'y a pas de bureau physique. Donc, soit il fait du domicile, soit il fait de la téléconsultation. Et c'est dans ses habitudes de praticien. Moi, j'ai l'impression que les vieux physios comme moi qui ont pris de l'habitude d'avoir du présentiel uniquement, de rencontrer les patients, que la téléconsultation était un passage obligé pendant la COVID, mais qu'ils sont revenus très vite à leurs anciennes habitudes. Moi, ça m'arrange encore d'avoir de la téléconsultation, de pouvoir voir du monde de partout, de l'extérieur et de faciliter ma vie, mais surtout la vie de mes patients. Donc, c'est pour ça que j'en fais, mais c'est pas encore, c'est ça, c'est pas tout le monde.
Définitivement, il y en a qui ont pris le bateau, puis qui ont eu la chance d'arriver à port, bien, ils ont mis pied sur terre, puis ils ont décidé de laisser ça de côté. Puis il y en a d'autres, un peu comme dans ton cas, qui ont décidé de continuer à poursuivre ça. Puis il y en a même qui ont bifurqué quasiment 50-50 pour avoir une certaine pratique hybride entre ces deux chevrons-là. Puis moi, ce qui m'amène un peu à voir avec toi sur le long terme dans ta pratique future, est-ce que tu crois continuer à préserver un peu cet équilibre-là ou du moins cet ajout-là à ta pratique?
Oui, puis ça va être beaucoup pour le patient, beaucoup plus que pour moi, en fin de compte. Mais oui, certainement, la possibilité, en fin de compte, de faire de la téléconsultation, c'est quelque chose, en fin de compte, qui fait en sorte que mes patients qui viennent de loin, et là, ce qui m'arrive fréquemment actuellement, c'est d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui fait 3 heures de voiture pour venir me voir, et que après ça, je dis, écoute, il faudrait que je te fasse un suivi dans 2 semaines et dans 1 mois, ben on va les faire en téléconsultation. Tu vas être quitte de faire 6 heures de voiture aller-retour pour venir me voir. Là, t'sais. Donc, oui, je vais garder ça beaucoup pour raccommoder le patient, et aussi parce que je crois que c'est possible de faire une très bonne job en téléconsultation. C'est surtout ça le point, là, c'est que celui qui a les désirs de faire de la téléconsultation, ce n'est pas un problème là, au niveau diagnostic, au niveau orientation, au niveau plan de traitement. Et il y a plein de raisons scientifiques là, pour expliquer ça. Là. On arrive à avoir une alliance thérapeutique forte. On n'a pas besoin de faire un examen physique détaillé pour faire un diagnostic précis dans la majorité des cas. On est capable d'orienter nos patients. Et oui, on peut être très efficace en faisant de la téléconsultation.
Puis de voir... Après ça, qu'il y a différents guides pratiques qui existent pour juste faciliter, organiser, faciliter le fait de faire cette pratique-là va juste permettre aux gens de pouvoir rester aiguillés puis de faire en sorte que la plupart du temps, comme les études le démontrent, que dans les différents créneaux, c'est pas nécessairement le milieu de pratique ou le patient en soi, ça reste le clinicien qui reste réticent à vouloir utiliser cette technologie-là parce que la satisfaction d'emblée, les patients l'ont pour la proximité. Certains aiment encore la version hybride, mais la plupart du temps, les gens adorent quand même le fait de rester chez eux, de pas avoir à se déplacer puis de pouvoir, après ça, séjourner soit à leur travail ou de continuer avec leur milieu de famille. Donc, je trouve que c'est une belle optique que tu apportes de pouvoir quand même montrer cette ouverture-là puis de penser avant tout que cette approche-là peut, oui, t'aider dans ton quotidien, mais aussi penser avant tout au patient qui peut faire moins de route puis de lui permettre d'avoir une expertise dans un domaine plus particulier, comme dans le cas avec toi pour des suivis avec les membres inférieurs, par exemple, ou d'autres personnes qui pourraient se spécialiser dans d'autres domaines. On arrive lentement, mais sûrement vers déjà la fin du podcast. As-tu quelques peut-être conseils ou peut-être stratégies pour peut-être les gens qui sont réticents encore à l'utiliser, dire « ben telle chose m'ont facilité ou m'ont aiguillé à vouloir peut-être poursuivre dans cette veine-là dans ma pratique? »
Moi, je pense qu'il faut avoir un environnement intéressant là, si on veut faire de la téléconsultation. Là, tu sais, moi, je suis dans une pièce qui est silencieuse, avec un visuel qui est quand même intéressant, qui est pas trop plate et tu sais, qui fait quand même accueillant, disons. Mélangé à ça, on a une plateforme sécurisée via notre structure. Par contre, ça m'arrive des fois que ça plante et que là, j'envoie un lien Zoom tout simplement parce que le Zoom fonctionne tout le temps presque bien. Là. Quoi dire d'autre si ce n'est qu'on développe des trucs un petit peu, tu sais, même dans les questionnaires pour approfondir. Puis après ça, dans l'examen clinique qu'on va faire, en fin de compte, avec le patient, bien, on va limiter le nombre de tests qu'on va faire. On va vraiment très bien cibler notre histoire examen subjectif pour aller faire quelques tests clés. On va beaucoup faire des tests pour « rule out » les pathologies, là, des tests de sensibilité, là, comme je vais te donner l'exemple, de faire un SLR au patient, qui est un test qui va rapidement nous donner une idée sur une condition neurale, bien évidemment, en plus de l'examen subjectif et du questionnaire qu'on lui a fait, pour écarter tout un pan de pathologie, puis on est obligé d'avoir une réflexion en entonnoir très efficace là, pour essayer de préciser ce que le patient a. Avec ça, ben, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut y envoyer un courriel, ce que je fais maintenant même en présentiel, un courriel avec de l'information qui contient des liens Internet, fait que je peux envoyer maintenant mon petit vidéo de quantification du stress mécanique, mon vidéo de comment faire un taping pour le genou, un plan de traitement avec le diagnostic que je n'ai pas besoin d'écrire à la main, mais qui est bien structuré. Et dans ce plan-là, en fin de compte, la fois d'après, on peut le reprendre pour voir où est-ce qu'il est rendu puis le faire évoluer. Donc, il y a toute une logistique qu'on développe, en fin de compte, que j'ai développée personnellement, c'est comme tous les physios, hein, pour être, voilà, efficace avec le patient et faire en sorte qu'on ait une alliance thérapeutique quand même forte avec lui. Donc, s'assurer de continuer de le convaincre, de lui faire un plan de traitement, d'être en relation directe avec lui. Fait que faut s'organiser un petit peu, mais finalement, c'est assez simple.
C'est sûr qu'avec un pas de recul, de prendre le temps de bien préparer sa séance va faciliter le tout, comme tu as mentionné, puis d'y aller en entonnoir, puis surtout cibler les aspects intéressants vont faire en sorte que notre histoire anamnèse va nous guider, grosso modo, vers notre plan de traitement, puis de faciliter l'ajout avec le temps de différents outils, que ce soit des vidéos ou des choses, vont augmenter notre coffre d'éléments pour pouvoir redonner aux patients, ce qui va faire en sorte que, de fil en aiguille, eh bien, la pratique va être facilitée, puis surtout, le lien va se faire d'emblée, vu qu'on aura moins de choses à penser avec le temps. Ce fut un immense plaisir de pouvoir discuter avec toi, Blaise. Donc, un gros merci encore, puis bonne continuité dans tous tes projets.
Merci, Julien.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode réalisé par Click Physio, un podcast où vous faites la rencontre de la téléréadaptation par l'entremise de divers acteurs du milieu de la physiothérapie. À un clic de vos patients, apprenez à apprécier la juste valeur de la téléréadaptation. Bref, si vous avez aimé le tout, n'hésitez pas à partager notre contenu sur vos diverses plateformes et de commenter, aimer nos différentes publications. Nous vous invitons également à vous joindre gratuitement à notre forum de discussion membre sur notre site web Click Physio pour en apprendre davantage sur la téléréadaptation. Au plaisir de vous compter parmi nous.